Ésaïe chapitre 61, Ancien Testament, livre de Ésaïe chapitre 61, et ceux qui connaissent ce passage comprennent que nous avons ici un passage que Jésus lui-même avait lu et qui parlait comme étant lui-même l'objet de la prophétie dans ce passage. Et le premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Je m'arrête un instant. Combien de personnages voyez-vous dans ce verset? Une chose que j'insistais avec des étudiants dans l'institut, c'est de poser des questions sur la parole. Imposer des questions. Quoi? Qui? Quand? Où? Pourquoi? Comment? Pour plusieurs raisons, éclaircissement surtout, mais parce que c'est très facile, surtout quand on sait qu'il n'y aura pas de surprise après, comme dans un roman. En roman, vous êtes cloué parce qu'il y a, si c'est un bon auteur, dans presque chaque paragraphe, il y a quelque chose à connaître pour vraiment partir à la prochaine, sinon vous risquez de oublier quelque chose très importante pour le fin, la fin. Mais quand vous lisez la Bible, vous qui avez lu maintes fois ou beaucoup de passages, on a l'impression d'être comme la dame à qui j'ai parlé une fois il y a des années quand on était à Toulouse avant de venir à Bordeaux, donc ça date longtemps. Je lui avais demandé, est-ce que vous lisez la Bible d'une manière régulière? Elle dit, non, je ne lis pas du tout. J'ai dit, pourquoi pas? Elle m'a dit, parce que je l'ai déjà lu. Et voilà, pour elle, un livre existe pour lire une fois, et puis tu vas à un prochain livre. Mais en tant que chrétien, nous savons, ce n'est pas du tout ça. Je pensais à une illustration juste ce matin par rapport à l'éclaircissement de la parole de Dieu, commençant par Genèse, traversant l'Ancien Testament qui progressivement révèle et illumine la parole. Et puis, bon, j'en parlerai tout à l'heure avec cette illustration. Mais je reviens à la question. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Combien de personnages voyez-vous dans ce verset? Surtout vous qui connaissez déjà la dernière histoire, qui ont déjà lu la dernière chapitre, qui connaissent le Nouveau Testament, et vous savez comment aller dans le Nouveau Testament pour prendre le fruit qui grandit dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles, et pour manger les fruits, et pour prendre une torche, et pour rentrer dans l'Ancien Testament, pour voir des choses avec la torche du Nouveau Testament que vous n'avez pas constaté avant. Et si vous n'avez jamais lu le Nouveau Testament, vous n'allez pas vraiment pouvoir répondre à cette question. Combien de personnages? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, dans ce verset, 700 ans avant que le Dieu trinitaire a été même déclaré être. Et en fin de compte, même les premiers chrétiens historiquement, les premiers juifs, qui étaient les premiers chrétiens, qui formaient la première église, ils avaient du mal de sauter de leur monothéisme Jéhovah messianique. Ils ont reçu le Messie, c'est par lui on est sauvé, mais de le mettre en égalité avec Dieu, ils avaient vraiment du mal. Ils avaient vraiment du mal. Ils passaient du temps, encore plus du temps, après les écrits de l'Écriture, avant qu'on était prêt à vraiment dire avec la même conviction l'Esprit Saint est Dieu, comme ils avaient appris à prendre Jésus de Nazareth et en même égalité avec Jéhovah. C'était choquant au début. Ça causait beaucoup de vibrations dans l'Église primitive. Fermez cette parenthèse. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers sa délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Je m'arrête là parce que tout à l'heure Jésus va s'arrêter sur ce point. Je veux que vous souligniez ce mot dans votre mentalité. L'Éternel dit le Fils, ma et m'apostrophe, oin, pour que je fasse quelque chose. Maintenant, tournez à Luc, chapitre 4, verset 18. Luc, chapitre 4, verset 18. Je vais vous remarquer le fait que ça suit le début du chapitre où nous lisons verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il rentre de cette expérience que nous connaissons tous, n'est-ce pas? 40 jours de jeûner dans le désert, d'être tenté par Satan dans toute faiblesse humaine. Et puis nous lisons à partir du verset 18, chapitre 4, verset 18. L'Esprit, il faut commencer à verset 14. Commençons au verset 14. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth. C'est où Nazareth? C'est quoi Nazareth pour lui? Il était là où il était élevé. Né à Bethléem, il était élevé à Nazareth. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, parce qu'il n'y avait pas des livres comme nous, ils étaient des rouleaux, n'est-ce pas? Donc le livre de Ésaïe aurait été un grand livre, 66 chapitres, aurait été un grand livre comme ça, probablement. Un grand livre rouleau comme ça, donc il fallait dérouler, il fallait enlever, rouler, enrouler, jusqu'il arrive à 61, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Imaginez combien de temps il a dû pour qu'il trouve la bonne place. Mais il a trouvé et il commençait sa lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et il s'assit. Et verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et verset 22, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus n'a pas fini de parler. Il est assis maintenant. Avant, apparemment, il était debout. Bon, après, il est assis et il continue à parler. Et il n'y a pas que 5 versets qui vont passer avant que la foule qui était émerveillée par les grâces, la grâce qui sortait de sa bouche, sont tellement furieux, il le prend physiquement, il le monte sur une montagne, il cherche à le pousser pour qu'il meure, mais nous lisons, il est disparu entre eux, il n'est pas mort, il est parti tranquillement, comme il a fait à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que son temps n'était pas encore venu. Jésus commandait la situation. J'étais frappé par le fait que Jésus avait choisi la lecture. Il aurait pu lire tout l'Ancien Testament. Il avait choisi quelques versets en Ésaïe 61, où il était marqué « L'Éternel m'a oint avec une puissance pour déclarer publiquement dans le synagogue ce que je fais dans la puissance de quelqu'un d'autre. Je ne fais rien qui ait ma propre puissance. » Et ça, c'est frappant. Jésus dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Silence. Silence touchable, presque. Comment ça se peut qu'un homme peut continuer à parler comme ça? Tellement était gracieux. Ils étaient un peu comme quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané. Et les soldats sont venus pour le chercher. Et il disait, qui cherchez-vous? Et il disait, nous cherchons Jésus. Jésus. Et il dit, je le suis. Et puis, ils sont tous tombés par terre, choqués par une voix qui avait une grâce et une autorité qu'ils n'attendaient pas. Et combien de temps il restait, bon, j'ai entendu beaucoup de théories, explications. Il y avait une colline, et parce que un des soldats, il trébuchait, il tombait derrière, et ça faisait un effet domino, ils sont tous tombés par terre. Franchement, des soldats bien formés, bien équipés et bien, ils étaient là pour saisir un criminel. Non, ils sont tombés parce que ils étaient envahis par quelque chose de plus puissant que eux et ils sont restés en bas jusqu'à ce que Jésus leur permet de se remettre debout. 5 secondes, 10 secondes, 20 minutes, il n'est pas marqué. Une autre fois, quand les pharisiens ont envoyé quelqu'un pour chercher Jésus pour qu'ils arrêtent, les soldats sont revenus, main vide, disent, vous ne l'avez pas vu? Oui, on l'avait vu, mais pourquoi vous ne l'avez pas pris? Personne ne parle comme lui. Et franchement, ils n'ont pas théorisé personne. Ils parlaient avec une grâce, avec une certaine manière, désarmant. Comment est-ce qu'on peut arrêter un homme si innocent que soit? C'est clair qu'il n'est pas coupable. Bon, Jésus parle, ils écoutent, ils sont émerveillés, mais plus tôt ou plus tard, le préjudice prenne le devant, comme est très souvent le cas. Ils se remettent comme avant, les soldats se sont remis aussi, ils ont arrêté Jésus. Et Jésus dit, attention, vous pouvez me prendre, mais laissez les autres partir. Ce n'est pas une requête, c'était un ordre. Ils ont laissé les autres partir. Jésus commande. Il a toujours commandé. Il commande maintenant. Il est le Dieu souverain qui règne. Et maintenant, aux côtés du Père, depuis son ascension. Donc, nous lisons quelque chose dans le Nouveau Testament que Pierre avait dit par rapport au ministère de Jésus. Pierre, quand il était en train de prêcher chez Corneille, Pierre choisit un verset, ou choisit de dire de cette manière que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est simplement un autre Jésus, il y avait beaucoup de Jésus. Il y avait Jésus de Béthanie, il y avait Jésus de presque tous les villages. Jésus voulait dire « Jéhovah sauve ». Beaucoup de parents nommaient leurs enfants « Jésus de ceci ou de cela ». Jésus, pas d'eux, mais ils étaient connus par « Ah oui, c'est le Jésus qui vient de Nazareth ». Il était souvent identifié par sa village natal où il était élevé pour que les gens puissent savoir de quel Jésus parlez-vous. C'est ce Jésus-là, Jésus de Nazareth. Il a été oint du Saint-Esprit et oint de force qui allait de lieu en lieu, faisant du bien sans l'absence de cette force, mais toujours avec l'absence de cette force, de lieu en lieu, de activité en activité, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, et Dieu était avec lui. Pentecôte, c'est quoi? Qu'est-ce que Pierre avait dit? La première fois que j'ai mis ces deux versets ensemble, les disciples vont avec Jésus-Christ, ils voient comme Jésus-Christ ascend, mais pas avant que Jésus dise, enfin, je crois qu'on a besoin d'y tourner, parce que j'ai montré un seul verset, mais dans le contexte, nous lisons, ça c'est le départ de Jésus, ça c'est l'ascension de Jésus, et il dit, verset 3, verset 4, Actes chapitre 1, comme il se trouvait avec eux, avec les disciples Jésus, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de attendre ce que le Père avait promis. Attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que c'est ce que le Père avait promis? Ce que le Père avait promis, c'était en verset 5. Jean, mais ce que nous allons lire, ce que le Père avait... Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors des apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, Est-ce en ce temps que tu vas établir le royaume de Israël, rétablir le royaume d'Israël? Ils n'attendaient que ça, avec un Messie. Ils attendaient que Jésus fasse ça maintenant. Jésus va partir en quelques minutes. Ils pensent, ah, ça nous intéresse, c'est maintenant, ça va être demain, ça va être la semaine prochaine. Il répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Pourquoi faire? Pour que vous soyez mes témoins. Jérusalem, toute la Judée, Samarie, ouais, au mieux pas, ils sont des adversaires l'un l'autre. Samaritaine et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient d'une nuée, le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder du ciel ? » Ce même Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba, très proche, un kilomètre peut-être, un tout petit peu plus. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire, et puis les disciples étaient là. Juste entre parenthèses, nous savons par la fin du livre de Luc, ils n'étaient pas tout le temps dans la chambre haute, ils étaient dans les rues de Jérusalem, la Bible dit, louant et glorifiant Dieu, mais ils étaient beaucoup de temps aussi dans le lieu, dans la chambre haute, en train d'attendre cette promesse que le Seigneur leur avait donnée. Qu'est-ce que le Seigneur avait parlé? Jésus avait dit, la nuit avant sa crucifixion, n'est-ce pas, dans la chambre haute, où le lendemain, Jésus allait être crucifié, parce que le lendemain serait le jour de Pâques, Jésus allait devenir le Pâques. Je prierai le Père et il vous donnerait un autre consolateur. Consolateur. Qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez consolateur ou le verbe consoler? En fin de compte, c'est plus que simplement ce que nous pensons dans notre idée moderne de consoler. Ça vient d'un mot latin traduit du Vulgate qui dit cum forte, F-O-R-T-E, avec force. Ça veut dire ça, avec force. Consolateur veut dire avec force. Vous aurez une force, une puissance, un aide. Quelqu'un qui viendrait à côté, un paraclète, celui qui vient à côté de vous pour vous aider, pour vous donner la force qui vous manque. Vous n'avez pas la force. Jésus-Christ, dans son humanité, n'avait pas la force. Souvent, on nous dit, oh, bien sûr, il a se tenu partout parce qu'il est Dieu. Oui, mais n'oubliez pas, il est venu ici exprès pour prendre un corps, pour vivre une vie dans la puissance d'un aide où moment par moment, il doit céder à cette force. C'est absolument merveilleux quand on pense des trois personnes de la divinité, leur merveilleuse unité. Quand il y a deux personnes ensemble chez les êtres humains après la chute, il y aura des accrochages plus tôt, plus tard, en principe plus tôt, parce qu'on ne s'accorde pas sur tout. Depuis l'éternité passée, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en pleine communion, l'un avec l'autre, en plein amour, en pleine paix, en plein épanouissement, Ils ne se manquaient de rien. Ils n'ont pas créé le monde parce qu'ils s'ennuyaient, ils tournaient les pouces sans rien faire. Et ils sentaient un besoin au fond d'eux. Ils ne sentaient jamais un besoin au fond d'eux. Ils étaient Dieu, le seul Dieu en trois personnes qui se communiaient. Et Paul termine une de ses lettres par ceci. Je vous salue dans la communion du Père, du Fils, du Saint-Esprit qui se mit en communion l'un avec l'autre. Et Jésus, quand il vienne, envoyé par son Père, qui prenait une position suprême dans cette hiérarchie, pas inférieure, mais une position d'autorité qui envoie son Fils, et son Fils qui dit « Je ne bouge pas sans que je fasse ça pour faire la volonté de mon Père. Je n'ouvre pas ma bouche sans que je annonce la volonté de mon Père. Je vis pour obéir à mon Père. » Dans son humanité, il dépendait sur celui qui l'a envoyé. Si vous pensez de cette hiérarchie, vous avez le Père qui envoie le Fils, qui envoie le Saint-Esprit, mais pendant que Jésus était ici sur la terre, il se soumettait même au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit lui conduise dans le désert, pour que le Saint-Esprit le guide, pour que le Saint-Esprit le garde, pour que le Saint-Esprit éclaire, pour que le Saint-Esprit lui montre comment grandir. Je crois que j'ai des versets ici quelque part. Oui, je me dépasse un peu de mes versets que j'aimerais bien que vous notiez. Mais quand Jésus disait, je vous envoie un consolateur, c'est celui qui vient à côté, le paraclète, pour nous aider, un autre consolateur, Jésus était leur consolateur. Ils étaient abattus quand ils commencent à réaliser que ce que Jésus était en train de chercher à faire pénétrer dans leur pensée, c'était qu'il allait partir. Ils dépendaient sur lui, ils allaient vers lui pour être encouragés, pour être renforcés. Et maintenant, il dit qu'il risque de partir. Je vais vous envoyer un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur qui va venir, il sera là pour toujours. Ce consolateur qui va venir, il est l'esprit de vérité. Il est appelé un consolateur, un esprit de vérité avant qu'il ait appelé dans le Nouveau Testament chronologiquement le Saint-Esprit même. Cet esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne peut pas le connaître, mais vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Et un peu plus loin, il dit, ce consolateur, l'Esprit Saint, que le Père va envoyer en mon nom, il va vous enseigner toutes choses, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Jean chapitre 16, verset 14, ça va avec 14-16, tournez à 16-14. Je prierai le Père pour qu'il vous donne un consolateur, afin qu'il demeure avec vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me glorifier parce qu'il va prendre de celui qui est à moi. Je vais partir, mais ne vous inquiétez pas, mon départ sera remplacé par quelqu'un qui va prendre ce qui est à moi et il va communiquer cela à vous. C'est ce que Jésus-Christ avait promis à ses disciples. Et nous savons que plus tard, les disciples vont rappeler tout ce que Jésus avait dit. Il va noter cela et nous allons avoir plus tard les épîtres. Il va me rappeler tout ce que... Et donc, quand Jésus Maintenant, je reviens où j'étais tout à l'heure. Et maintenant, quand Jésus grandissait, nous lisons, l'enfant croissait, l'enfant se fortifiait, l'enfant était rempli, et le temps de verbe, il se remplissait de plus en plus de sagesse, et la grâce de Dieu était avec lui. Jésus vivait toute sa vie, il y a plein de passages bibliques qui soulignent ceci, en pleine soumission à l'Esprit Saint, pour qu'il puisse faire ce qu'il faisait. Il ne vivait un seul moment. Jésus devient notre modèle. Nous lisons Matthieu chapitre 5, versets 7 et 8. C'est lui, ce Jésus, que dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Pas grâce, pas à cause de grâce, mais à cause de, comme vous et moi, mais à cause de sa piété. Beaucoup de gens cherchent à être agréés par Dieu à cause de leur piété. Personne n'est capable. S'il pourrait jamais la réalité de sa justice par rapport à la justice de Dieu, il ne s'appuierait jamais sur sa propre piété. Jésus a pu, mais il a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus a pris l'obéissance. C'est-à-dire, il était comme un enfant qui était très rebelle, très désobéissante, et petit à petit, il devient de moins en moins désobéissante, et jusqu'au point où il est parfaitement obéissant, pas du tout. En tant qu'un être humain, il expérimente 33 jours fois 33 ans, pardon, multiplié par 365 jours de vivre jour après jour après jour, d'apprendre plein de choses sans commettre de péché. Hébreux nous dit, il était tenté en toutes choses, mais sans jamais, depuis qu'il était zéro jusqu'à 33, il n'a jamais commis une seule péché. Et peut-être plus à petit, il apprenait des choses, il croissait en sagesse. À l'âge de 12 ans, il était extraordinairement sage, jusqu'au point où des gens étaient très 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 étonnés. Il lui permet d'entrer dans la synagogue, dans le temple même, et même prendre le temps des grands pharisiens pour discuter la théologie, les choses de Dieu avec eux, mais d'une manière, pas simplement les points de la théologie froide, bois, sans cœur. Il était toujours quelqu'un de remarquable, constamment conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Et puis, nous lisons que Jésus est mort. Il est ressuscité parmi les morts. Pendant 40 de jours, nous voyons au moins une dizaine de fois où Jésus est venu, disparu, venu, disparu. Aucune raison de penser qu'il était rarement avec ses disciples. Il n'est pas dit qu'il n'était pas souvent avec eux. Il n'est pas dit qu'ils sont allés dans la chambre haute et pendant des heures et des heures, il faisait avec eux ce qu'il faisait avec les deux hommes sur la route de Emmaüs quand il parlait. Ouvrant les Écritures dans l'Ancien Testament pour que pour la première fois, ils voient ce verset-là, ça s'ouvre maintenant avec compréhension-là. Oh, vous qui sont lents à comprendre que le Messie devait passer, c'est Moïse qui l'avait dit, c'est le psalmiste qui l'avait dit, c'est les prophètes qui l'avaient dit, et vous ne le voyez pas. La progression, et d'un coup, il y a plein de choses qui s'améliorent, il y a plein de choses qui deviennent claires. Mon illustration est ici.
Alors, est-ce que vous pouvez lire ça? Qui peut lire ça? Si je vous offre 10 euros, est-ce que vous pensez que vous allez lire? Il y a certains qui risquent de pouvoir lire. Mais petit à petit, les Écritures deviennent de plus en plus ce que vous sommes, les Écritures, plus que tout ce qui est visible, mais pas trop clair. Franchement, ça c'est trop clair. Et petit à petit, ça devient de plus en plus clair. Et donc, mais à la fin du Nouveau Testament, il est comme ça. Jean-Baptiste, il disait 3 ans auparavant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour présenter l'œuvre de Jésus-Christ. 3 ans plus tard, l'apôtre Jean, qui passait des jours et des jours et des mois sous l'enseignement du meilleur pédagogue que le monde n'a jamais connu, était abattu. Il ne pensait pas voir Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, tu vas ressusciter en toi. Non, il ne pensait pas ça. Personne ne pensait ça. Aucune personne ne pensait ça. Et combien plus, donc, même des gens qui avaient les épîtres. Il y avait un grand son en avant. Ah, ça c'est déjà merveilleux. Dieu ne nous révèle rien qui n'a pas été déjà révélé en 2015, mais il nous illumine ce qui a été déjà révélé. C'est pour cela que je l'ai déjà lu. Donc je ne lis plus, non, plus ce qu'on lit, plus que ça prend en profondeur, plus que ça prend une dimension 3D qui devient de plus en plus lucide, et nous comprenons à comprendre, et plus que ça éclaircit, plus qu'on est ravi de joie, presque plus qu'on n'avait voyé rien du tout avant. Et puis, aussi pendant 4000 ans de progression de révélation depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et il y a plein de choses que les disciples en pleine formation avec le maître pédagogue n'ont pas du tout saisi. Il avait dit, mais ça passait au-dessus de la tête parce que ça ne pourrait pas être comme ça. Il a dû dire autre chose. Ils étaient bloqués par plein de choses. Comme nous pouvons être aussi bloqués par plein de choses, surtout le péché, et notre obstinance, et notre détermination d'avoir la meilleure position sur tout, etc. Nous sommes des personnes qui cherchent quand même à être approuvées, à vouloir dominer, à moins que Dieu, dans sa grâce, prenne beaucoup de patience avec nous. Alors, nous serions vraiment a perdu. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 12, versets 12 et 13, et là où j'aimerais bien que vous nous retourniez maintenant. Beaucoup de malentendus par rapport à certains passages, surtout en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 13 dit, 12 et 13, comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, se forment qu'un seul corps, ainsi est le corps de Christ, c'est ça ce que j'ai mis sur l'écran, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il n'y a pas 10 versets même. Il n'y a même pas 8. Il y a 6, je crois, ou 5 versets où le baptême du Saint-Esprit est touché dans les épîtres
chaque fois comme un événement qui a été déjà fait. Ici, nous disons, ainsi, c'est le corps de Christ. Nous avons tous été baptisés. Le Pentecôte était un événement qui a eu lieu. Vous savez ce que ça veut dire, Pentecôte? P-O-N-T, Pente, ça veut dire quoi? Cinq. Pentecôte veut dire simplement le cinquantième jour. Parce que ça figurait dans les trois grandes fêtes, le fête de Pâques, qu'il fallait sept semaines de sept jours plus un avant qu'ils célèbrent le fête de récolte. Et ça, c'était le fête, une fête de joie, où ils remerciaient le Seigneur pour la récolte qui faisait cela. Donc tout le monde était obligé, obligatoire, que tous les hommes quittent leur pays, quittent leur petit village, qu'ils viennent trois fois par an, et deux fois très proches l'un à l'autre, pour célébrer ces fêtes. Donc il est estimé, ça aurait pu être jusqu'à 1 million de personnes, dans une ville où il n'y avait que plusieurs dizaines de mille, normalement de l'année. Ils venaient de partout dans le pays. Et puis, nous lisons le passage que David nous a déjà lu, on ne va pas le relire. Mais à un moment donné, le jour de Pâques, de Pentecôte, le 50e jour après le Pâques, c'est-à-dire après l'immolation de Jésus-Christ. N'est-il pas absolument émerveillante qu'une fête qui est célébrée année après année après année, la Pâque où beaucoup de gens font élever les brebis pour ce moment où ils peuvent vendre des dizaines ou des centaines ou des milliers de brebis au public et devenir riches par une seule fête. Ils vivent pour ça. Le jour même où ils immolaient leur agneau, parce que Pâques veut dire passer au-dessus, l'ange de mort, en Exode, nous lisons, et passer au-dessus tous les foyers qui avaient du sang au-dessus de la porte, au-dessus des deux côtés de la porte, pour que personne ne meure. Mais en Égypte, dans chaque foyer, quelqu'un meurt. Et pendant des années, les Juifs, aujourd'hui, ils célèbrent toujours Pâques. Pour nous, Pâques, c'est autre chose. Pour eux, Pâques, c'est ça. Ils célébraient pendant 1500 ans, à peu près, entre Moïse et Jésus. Ils célébraient ça année après année, avec une grande religiosité et précision. Et nous avons déjà parlé de toutes les choses dans leur formalité. Et qu'ils faisaient pendant un repas comme ça, où Jésus faisait la même chose et après tout c'était fini. Il a pris encore du pain et du vin et il a terminé l'ancienne Pâque pour ouvrir une nouvelle dispensation. Donc, comme ça, c'est comme l'incarnation est un événement unique, historique, et nous célébrons Noël. Comme Pâques était un événement historique où Jésus est mort sur la croix, la Pentecôte était aussi un événement historique. Et donc, nous avons lu avec David tout à l'heure, Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte. Certains pensent peut-être, si vous n'avez pas connu le contexte, ils appellent ça Pentecôte parce que c'était déjà passé. Maintenant, ils écrivent ça beaucoup plus tard. Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est venu. Non, Pentecôte, c'était une fête qu'il célébrait depuis 1500 ans. Le jour où il célébrait la Pentecôte de Moïse, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux qui remplit toute la maison des langues, semblait-il, pas des vraies langues de feu, mais semblables aux langues de feu, il est dit, pas une bride d'un vent, mais semblable à un bride de vent, c'était l'esprit même. On ne peut pas imaginer la scène, mais vous connaissez l'histoire et il nous a été lu. On peut dire, il n'y a aucun verset qui dit que Pentecôte est la naissance de l'Église, mais avant cela, il n'y avait aucun mouvement, il n'y avait aucune chose qui mettait les chrétiens ensemble. À partir de ce moment, quelque chose d'extraordinaire a eu lieu, la promesse de Jésus, qu'ils attendaient assidieusement, arrive. Et Jésus disait, attendez la promesse, je vais vous envoyer un consolateur. Il est avantageux, le passage que nous avons vu, que je m'en vais. Pourquoi il est avantageux que tu t'en ailles? Comme j'ai dit aux jeunes le vendredi soir, quand on parlait un tout petit peu, Jésus était là, incarcéré, si tu veux, dans un corps. Il avait un nom, il avait deux oreilles, il avait deux yeux. Il était limité physiquement. Pour ne pas pouvoir pratiquer son omniprésence, il ne pouvait pas être devant tout le monde au même temps où chacun peut avoir une communion personnelle avec lui. Il a dit, il est avantageux pour que je m'en aille parce que si je ne m'en aille pas, je ne peux pas vous envoyer ce consolateur, ce cum forte, cette puissance qui sera à côté de vous, qui sera non simplement avec vous, comme je le suis, mais il sera en vous. Et ça, c'est la grande chose qui démontre, qui distingue ce jour de Pentecôte et qui distingue les personnes après et avant, les chrétiens après et avant. Dès ce moment, l'Esprit Saint demeure dans le croyant. Et puis, c'était un événement qui a eu lieu. C'était pas parce qu'ils étaient tellement spirituels après 40 jours. C'est pas parce qu'ils ont tellement prié très 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 fort et la force de leur prière a forcé le Saint-Esprit de descendre. C'était parce que c'était le cinquième jour de Pentecôte. Et c'était le jour de Pentecôte où Dieu avait prévu depuis l'éternité passée de faire réaliser le sens duquel le jour de Pentecôte existait comme image. Un événement historique où, deuxièmement, tous ont été participants. Aucune exception. Et à travers le Nouveau Testament, dans les Anciens Testaments, tous les passages, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, tous les passages qui parlent du baptême du Saint-Esprit parle, numéro un, comme un événement déjà eu lieu, on verra ça dans un instant, et comme ayant tout le monde qui était chrétien participant. Bon, je sais, le mouvement charismatique qui était un mouvement qui commençait en 1906 dans une émission en Californie, et vous pouvez lire tout cela, qui a interprété, à cause d'un enseignement de quelqu'un pour une première fois, le baptême du Saint-Esprit est une autre expérience à part le salut. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience après le salut, où à un moment donné, à cause de votre relation avec le Seigneur, vous êtes baptisé par le Saint-Esprit. Alors le verset qui est le plus clair, c'est pour cela que je l'ai mis ici. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, par définition, est le placement du croyant au moment de sa conversion dans le corps de Christ. Quelque chose qui n'existait pas ainsi. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur quelqu'un. Il faisait un travail, des miracles souvent, il rentrait au ciel, il attendait jusqu'à la prochaine fois qu'il en avait besoin. Mais à partir de Pentecôte, le Saint-Esprit entre, il sera en vous et il va vivre, vous serez mes témoins partout. Et vous aurez la puissance de Dieu de pouvoir parler sur Dieu, et ça c'est le mot plus important, le être un témoin de Jésus-Christ. Nous n'allons pas faire les mêmes miracles de Jésus, nous n'allons pas guérir des personnes, nous n'allons pas faire beaucoup de choses, on va faire des choses encore plus grandes que cela, Jésus a dit. Vous allez faire des choses que je n'avais pas fait. Nous avons chacun en nous une puissance qui peut parler pour que la vérité sonne vraie. Et comme nous avons vu avec des étudiantes à l'Institut, quand vous présentez le Seigneur à qui que ce soit, dans l'humilité, de la plénitude de l'esprit, vous devez attendre que cette personne ne peut pas rester neutre. Avez-vous remarqué cela? Ce n'est pas parce que vous êtes tellement saint, mais quand vous avez partagé d'une manière calme et sûre l'évangile de Dieu, c'est rare que personne, que qui que ce soit, ait laissé émotionnellement neutre. Il réagit. Parfois c'est contraint, parfois c'est calculé, c'est stoïque, parfois c'est derrière une façade, parfois c'est explosif, ou il accepte émotionnellement, ou il rejette émotionnellement, mais il ne peut pas rester sans toucher. La vérité, avec le témoignage de l'esprit qui demeure dans le cœur du croyant, rend coupable un coupable. Quand il va venir, disait Jésus, il va convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Je sais qu'il y a un peu de débat dessus, mais j'aime beaucoup ce que quelqu'un a dit une fois, vous avez partagé cela, c'est métaphorique, attention, c'est pas exactement comme cela, mais c'est comme quand vous commencez de parler du Seigneur à vos amis, le Saint-Esprit monte sur ton épaule, il parle, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, pas ton épaule, l'épaule de la personne qui écoute. Les théologiens appellent ça le pré-conversion-conviction. Pré-conversion, avant la conversion, conviction du Saint-Esprit qui œuvre pour que ton témoignage soit validé dans sa conscience et dans sa connaissance. La connaissance de Dieu est surtout innée. La Bible enseigne cela. La connaissance de Dieu n'est pas primordialement enseignée par des religieux. Tous ont une connaissance innée, Romains chapitre 1, de la existence d'un créateur surnaturel. Tout le monde a une connaissance innée, pas enseignée, Romains chapitre 2, de la nécessité de vivre moralement, de la nécessité d'avoir une conscience qui dit « Ah, 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 ne fais pas ça !» Dans toutes les cultures, n'importe où, ils sont condamnés ou excusés ou accusés, Romains chapitre 2 dit. Tout le monde connaît certaines choses de Dieu. Et quand vous ajoutez purement la conscience humaine, douée avec une conscience innée, plus la conviction du Saint-Esprit qui arrive pour convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Vous avez un témoignage très puissant. Vous n'avez pas élevé la voix. Vous allez parler très très lentement, vous allez parler discrètement peut-être, vous avez utilisé votre personnalité comme c'est ça, vous n'êtes pas obligé de forcer une certaine intensité, vous n'êtes pas obligé de coincer les yeux, de faire quelque chose comme ça pour pousser, non, ça n'a rien à faire avec ça. C'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose de subjectif, c'est de présenter la vérité objective de Dieu, comme vous avez scruté, digéré, compris dans la Bible. Annie et moi ont acheté il y a presque 2 ans une voiture qui est dehors, un G4, j'avais pas mal de kilomètres dessus. Le propriétaire, on est allé voir la voiture, mais il a voulu un peu trop d'argent, on a discuté avec lui. Mais avant de partir, il nous a dit, quand nous sommes rencontrés, je crois que j'ai de la chance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai scruté le nom Bixby et puis j'ai trouvé un pasteur à Pessac-Compostelle. Je dis, ah, j'ai de la chance parce que je venais de faire un pèlerinage sur le chemin de Jacques-Compostelle parce que j'ai un fils qui est mentalement handicapé. Et j'ai fait ça espérant que peut-être Dieu... Et quand j'ai vu que vous êtes un pasteur, et en plus le mot Compostelle, ça me dit, j'ai de la chance. Pas trop biblique. Ce n'est pas nécessaire pour lui que ce n'est pas trop biblique. Au fur et à mesure, pas pour continuer cette histoire, mais ça prolongeait un peu, hein, plusieurs emails, une deuxième visite, 6 mois plus tard, où il a beaucoup baissé le prix de la voiture et nous avons terminé par acheter. Et puis, je lui avais insisté un jour, discrètement, vous avez besoin de lire la parole de Dieu que vous avez reçue, parce que c'est là où Dieu déclare, montre sa volonté, comment le connaître, comment agir face à nos épreuves, etc. Il m'a réécrit une lettre un peu irritée pour dire, Robert, on se voyait comme premier nom, mais non, Robert, écoute, je ne vais pas lire la parole de Dieu, je sais bien que Dieu est très capable de parler à travers mes sentiments qu'à travers sa parole. Peut-il le faire? Mais bien sûr, il est Dieu, il peut tout faire. Et je me suis dit après, et beaucoup de réflexions après ceci, combien en tant qu'être humain nous cherchons une impression subjective à l'intérieur. Beaucoup du monde historiquement ont été propulsés par des mystiques qui cherchaient Dieu, pas par la parole de Dieu primordialement, par des sensations à l'intérieur pour connaître la volonté de Dieu, dans toutes sortes de méditations et de réflexions. Je cherchais même des mystiques dans l'internet juste hier pour savoir, il y a une longue liste de gens qui sont connus, la plupart que je ne connaissais pas, mais plusieurs que je reconnais leur nom parce qu'ils ont fait une marque historiquement dans la religion et surtout dans la foi catholique qui est très 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 orientée vers le mysticisme et aussi dans les mouvements pentecôtistes et charismatiques aussi, surtout dans les dernières quarantaines d'années où on cherche une expérience, et ils ont mis comme nom de cette expérience le baptême du Saint-Esprit, une grave erreur qui a vraiment déformé le sens que la Bible a voulu nous faire comprendre. Les versets que nous avons qui parlent du baptême du Saint-Esprit sont les suivants. Vous tous qui avez été baptisés, notez le verbe, vous avez été baptisés, vous avez revêtu Christ, et notez aussi l'universalité. Vous tous ceux qui sont chrétiens, quand Paul adresse des lettres aux chrétiens, il dit, vous avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi et en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Dans aucun de ces cas est-ce que nous avons le baptême mouillé de l'eau. C'est ce dont le baptême d'eau n'est qu'une image, c'est une photo. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau est une photo du baptême de l'Esprit qui a pris le chrétien le moment de sa conversion, qu'il a plongé, si vous voulez, immergé, si c'est le sens du mot baptiso, en Christ pour former son corps, nous lisons, le corps de Christ. Et parce que je suis dans le corps de Christ, je suis avec ceux qui ont reçu Jésus comme le sauveur personnel en Christ. Nous sommes en Christ. Et puis, Romains chapitre 6, que dirons-nous donc? Dit l'apôtre Paul, et parlant de ses détracteurs, Est-ce que nous devrions demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Pourquoi? Parce que quelques versets auparavant, au chapitre 5, il avait enseigné « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Oh, chers amis, c'est une merveilleuse promesse. Seigneur, je ne peux plus, j'ai fait ça, je ne peux pas être pardonné. Après ce que j'ai fait, après ce que je pensais, de la manière que je vis, c'est pas possible que tu me sauves. Sauf, attention, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ah, ça m'arrange, disent certaines. Je vais donc vivre dans le péché, parce que plus de péché, plus de grâce. C'est bon. Et afin que la grâce abonde, ah, loin de là, c'est beaucoup plus fort que loin de là. C'est presque un cri de Paul emploie ce terme une dizaine de fois, même en Romains. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, et franchement, je sais qu'il y a certains commentateurs qui pensent à part du baptême d'eau, mais pour la plupart, et moi je crois que dans le contexte, il ne faut pas penser du baptême d'eau. C'est quelque chose qui se fait, qui se manifeste, qui est préparé, qui est décidé, que la date est choisie, que les amis sont invités, pour qu'ils puissent entendre notre témoignage et visiblement voir en image ce qui s'était passé quand j'étais baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Ignorez-vous que nous tous encore, il parle à tous les chrétiens, soi-disant Rome, oui, sachant que peut-être il y a certains qui ne peuvent pas être inclus, mais il ne sait pas qui sont. Il parle comme tout le monde est chrétien, il écrit à une église, il écrit à aux chrétiens. Il est créé au corps de Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Point d'interrogation. Ignorez-vous ça? Semble-t-il, peut-être. Nous avons été, c'est pas un point d'interrogation maintenant, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Quand Christ a envoyé le Saint-Esprit, a accompli, exaucé sa promesse, le jour de Pentecôte, le chrétien est doué avec une puissance, nous avons tendance de penser puissance, explosion. Non, premièrement, c'est une autorité. D'être autoritaire. Ah, quand on pense autoritaire, on pense... Non, c'est pas ça. Jésus ne marchait pas comme ça. Il ne marchait pas comme ça non plus. Mais il était entièrement spontané, humble, indistinguable de aucune personne. Il n'aurait jamais été pris pour un roi parce qu'il n'était pas autoritaire dans sa manière de se présenter. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche d'une manière très discrète sans que les gens constataient de suite. C'est Dieu qui parle. C'est autoritaire, ça vient de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu qui parle, mais vous êtes le porte-parole de Dieu. Et la plénitude du Saint-Esprit est autre chose. La plénitude du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit ne sont pas la même chose. Ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis de l'Esprit, l'apôtre Paul dit en Éphésiens 5. Puis après ça, il montre six différentes relations familiales. En chapitre 5 et chapitre 6 de Romains, de Éphésiens, vous pouvez le voir vous-même. Six relations. Femme, soyez soumises à vos... Marie, une femme remplie de Saint-Esprit, va avoir une certaine mentalité par rapport à son mari qui n'est pas comme le monde. Marie, deuxième, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un mari rempli du Saint-Esprit est un mari qui se présente à côté de sa femme différemment. que les gens du monde, même avec un amour très intense humaine pour eux. Enfants, obéissez à vos parents. Un enfant rempli de l'esprit a une manière de vivre par rapport à ses parents que les autres ne l'ont pas. Père, quatrième, élevez vos enfants dans les voies du Seigneur et ne l'irritez pas par votre égocentrisme et autorité. Ces mots ne sont pas là. Mais très souvent, l'irritation que nous faisons envers nos enfants, c'est parce que nous avons agi d'une manière charnelle et d'une manière égocentrique et d'une manière autorité. On a abusé l'autorité que le Seigneur nous avait donnée. Jésus-Christ venait avec une autorité suprême. Et les disciples attendaient le jour où un jour il va manifester son autorité. Il le manifestait tous les jours de sa vie et il ne le savait pas. Après oui, avant nous. Maître, vos esclaves va être traité autre parce que vous avez la plénitude de l'esprit qui éclaire et qui débloque sur beaucoup de choses. Esclaves, sixième, vous allez avoir une manière de vivre par rapport à vos maîtres inconvertis, abominables, mais vous êtes remplis de l'esprit. La plénitude de l'esprit n'est pas une question de parler en langue, d'une question de... Bon, il y avait trois incidents dans la parole de Dieu, et ça c'est une autre chose, où les gens parlaient en langue, et il était parce qu'ils avaient besoin de parler en langue, et Dieu avait besoin de manifester son pouvoir. Il n'y a aucune autre instance dans la parole de Dieu, et même ces trois instances, c'était une langue traduisible, et surtout clair dans les deux premiers, Actes chapitre 19, moins clair, peut-être. Mais le paganisme, depuis le début de l'histoire, ont toujours cherché une connaissance hors corps. Mon ami qui m'a vendu la voiture, il cherchait, je ne vais pas me bloquer dans un livre comme ça. Beaucoup de gens dans le mouvement charismatique pensent comme ça. Oui, j'aime la Bible, mais pour vraiment être rempli du Seigneur, d'un moment ou l'autre, il faut mettre la Bible à côté et laisser partir les sentiments. Les sentiments sont humains. Le Saint-Esprit est non visible, il est non audible, il est non touchable. Le Seigneur ne nous touche, le Saint-Esprit ne nous touche pas. Nous avons des sentiments, bons serviteurs, mauvais maître, comme quelqu'un a dit. Dieu veut que nous les utilisions pour sa gloire, mais que nous marchions dans la vérité. Le fruit de l'esprit manifesté en Galates chapitre 9 et chapitre 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit du baptême du Saint-Esprit qui n'est que notre conversion. La Bible, jamais une seule fois, nous commande de prier pour le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Vous allez chercher en vain. Vous n'êtes jamais commandé de prier pour le baptême du Saint-Esprit. À moins que vous voyez ça comme réception de Jésus-Christ et repentance de vos péchés. Alors, ça c'est parce que le baptême du Saint-Esprit... Et ce que Jésus fait, le moment où vous entrez en Christ, chaque chrétien est baptisé par le Saint-Esprit. Et nous avons beaucoup d'églises où nous avons deux catégories de chrétiens, des super-chrétiens, parce qu'ils ont parlé en langue, et parce qu'ils ont donc été baptisés du Saint-Esprit. Et vous avez des moins super-chrétiens qui angoisse et qui plaide aussi. Seulement je peux parler en langue, mais j'arrive pas. Bon, je sais, il y a plein d'interprétations et variances. Mes chers amis, beaucoup, beaucoup de confusion. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous mettez des lunettes, vous allez interpréter la Bible, sans doute, selon la couleur de vos lunettes, moi-même inclus, tout le monde. Pourtant, la Bible nous a été donnée par l'Esprit Saint qui nous a baptisés en nous, qui nous a autorisés de devenir envoyés pour devenir les témoins de Jésus-Christ, équipés avec la promesse que sa parole est puissante et comme une petite semence de moutarde va pénétrer, entrer, et quelques jours, quelques semaines, quelques années, beaucoup d'années plus tard, va porter du fruit.